Social Club, Frédéric Taddeï.
Je reçois Alexandre Lacroix pour son nouveau livre « Ce qui nous relie ». Frédéric Socher, le réalisateur de « Je veux être actrice » qui sort mercredi en salle. Anastasia Colosimo qui publie « Les bûchers de la liberté ». Julien Donadi pour son premier roman « Vie et œuvre » de Constantin Hérode. Et l'ethnologue Astrid Fontaine, l'auteur du « Peuple des tunnels ». C'est sur la vie des employés du métro parisien au début du XXe siècle. Anastasia Colosimo, vous êtes la plus jeune dans ce studio, vous avez 25 ans, peut-être que vous êtes plus à même que les autres de voir ce qu'il y a de moderne aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis ce début de 21e siècle à vos yeux ?
Je dirais qu'à mes yeux, ce qu'on fait de nouveau, c'est le 11 septembre 2001. Je crois que pour ma génération, c'est particulièrement marquant. Donc je dirais que les années 2000 ont apporté beaucoup de nouveaux problèmes. Vous connaissez tous la phrase de Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas, qu'on lui prête d'ailleurs à tort.
Il paraît même qu'il ne l'a pas dit.
Exactement. Mais en tout cas, bon, on ne sait pas qui l'a dit, mais c'était une très belle intuition. Donc je dirais que les années 2000, c'est beaucoup, beaucoup de religieux.
Et pour vous, Alexandre Lacroix, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, vous en voyez passer.
Oui, alors du point de vue culturel, moi je vais citer quelque chose qui est peu connu, c'est il y a un genre littéraire émergent sur Internet, les sagas MP3. J'ai jamais vu ce genre cité dans aucun média officiel.
Et vous êtes le premier à en parler d'ailleurs dans cette émission. Je vous félicite.
Ce sont des épopées en fait, c'est très épique. Les adolescents téléchargent, c'est comme des romans radiophoniques. Et certaines de ces sagas sont assez belles. L'une qui s'appelle le Nautilus par exemple, sur
donc
un sous-marin perdu dans les mers.
C'est de l'audio.
C'est de l'audio, des sagas MP3, c'est très écrit aussi, c'est du texte et c'est une nouvelle manière de raconter des épopées en marge des publications officielles.
Et où les trouve-t-on ?
Saga MP3, ça sort. Vous tapez ça sur un moteur de recherche et vous en trouverez plein.
Parfait, Frédéric Socher.
Alors, moi ce qui me fascine, c'est le foisonnement de tout en fait sur Internet et je reste dans mon domaine, les films. Je pense qu'il y a 300 000 heures de films par minute qui sont mis dans le monde entier. Et donc ça pose la question évidemment de... C'est formidable puisqu'on a accès à tout et en même temps, moi je ferais l'éloge des critiques, l'éloge des blogueurs, l'éloge des personnes qui donnent du sens à tout ça et pas qu'on soit perdu dans la masse. Et puis l'éloge d'ici et maintenant, c'est-à-dire que le théâtre c'est quand même pas mal d'aller au spectacle et de voir les choses pas seulement dans le numérique.
Mais quand vous parlez de ces heures et de ces heures de films, ce sont des heures de vidéo en fait, il y a de la télévision,
il y a tout.
Il y a des souvenirs de vacances.
Je me rappelle quand j'étais adolescent, il y avait une chanson de Bernard Lavilliers que j'aimais beaucoup à l'époque qui disait « Tout est permis, rien n'est possible ». Est-ce que c'est un peu pas ce qu'on vit pour l'instant ?
Julien Donadi.
Je vais emprunter ma réponse à Julien Gracq qui dans l'un des derniers entretiens qu'il a donné au magazine littéraire disait qu'on était en train de passer d'une époque de la verticalité à une époque de l'horizontalité. Et lui, il pensait aux œuvres et il disait qu'être homme de lettres jusqu'à lui, c'était s'approprier l'ensemble des œuvres, des auteurs qu'il avait précédés, mais dans la même langue, donc la langue française, et qu'on était en train de passer à une époque de l'horizontalité, c'est-à-dire que maintenant, être homme de lettres, c'était s'approprier l'ensemble de la littérature du monde, mais du monde présent. Et je pense que cette comparaison entre la verticalité et l'horizontalité est assez féconde. Et donc, je dirais que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'horizontalité.
Pourtant, Julien Gracq est mort depuis longtemps maintenant.
Oui, mais c'était dans les années 2000.
Astrid Fontaine.
Moi, je pensais plutôt à quelque chose autour du fait qu'on est plongé dans une actualité un peu permanente, comme ça, un peu foisonnante, qu'on est tout le temps au courant, pratiquement minute par minute, de ce qui se passe en bas de chez nous ou dans le monde, et qu'en fait, en réaction un peu à cette hyper-actualité, à ces fils d'actu omniprésents, on a un rapport à l'histoire qui évolue peut-être, et qu'on a souvent besoin de s'y référer pour recontextualiser et hiérarchiser un peu toutes ces informations. Et je pensais aussi, pour donner un exemple un peu plus précis de cette évolution, à un article que j'ai lu là il y a pas très longtemps sur un projet qui s'appelle Silicosis, en référence en fait à la silicose qui est une maladie des mineurs en fait de charbon. et qui en fait rassemble médecine et histoire. Et donc ça, c'est une tendance un petit peu nouvelle des sciences sociales de s'associer à la médecine ou à d'autres disciplines, en partant de l'idée que on peut mieux diagnostiquer et mieux traiter des maladies aujourd'hui en s'intéressant en fait à leur reconstitution historique et à la manière dont elles ont été construites socialement.
Europe 1 Social Club revient dans un instant. Europe 1 Social Club. 20h, 22h, Frédéric Taddeï.
Frédéric Socher, vous sortez un film ce mercredi dans les salles. Il est intitulé « Je veux être actrice ». Le rôle principal est tenu par votre fille de 10 ans, Nastassia Socher. Vous la mettez en présence de nombreux comédiens connus, Patrick Chenet, Michael Lonsdal, Jacques Weber, Micheline Prel, Denis Podalydès. Vous la mettez même en présence de son grand-père, votre père, Jacques Socher, philosophe. Il a 76 ans. Et vous-même, vous vouliez devenir réalisateur, vous avez débuté à l'âge de 15 ans, votre fille a 10 ans, elle veut être actrice, et la question que je me suis posée, moi, c'est est-ce qu'elle veut vraiment être actrice ou est-ce qu'elle joue un rôle que vous lui avez suggéré ?
Alors, elle ne joue pas un rôle que je lui ai suggéré, elle veut vraiment faire du théâtre. Alors, devenir actrice, c'est une autre question, l'avenir nous le dira, mais je pense que d'abord, c'est formidable pour un enfant de 10 ans de suivre des cours de théâtre, parce que le théâtre, ça amène plein de choses possibles, vaincre sa timidité, avoir un rapport aux autres, avoir une expérience collective, avoir un rapport au texte. Et donc, elle adore ça. Et donc, c'est elle qui m'a demandé, puisqu'elle savait que j'étais réalisateur, bien sûr, de lui faire rencontrer des comédiens que je connaissais ou avec qui j'avais envie de tourner, avec qui j'avais déjà tourné. Et donc, chacun a joué le jeu. C'est-à-dire que chacun a accepté de lui donner un petit secret sur le métier d'acteur, sur sa passion, sur ce que c'est faire un personnage. Mais vous avez raison, par contre, il y a un mélange, bien sûr, entre fiction et documentaire, puisque...
Comme dans tous vos films.
Comme dans tous mes films, c'est vrai. Et donc, il y avait une partie préparée à l'avance et puis une partie improvisée. C'est un mélange entre les deux, le film.
La partie préparée à l'avance, elle a été préparée de longue date, puisque je rappelle que votre fille s'appelle Nastassia Socher, avec un J qui se balade, comme dans Nastassia Kinski. Donc, au fond, vous avez projeté sur elle, on l'a prénommant comme une actrice, vous avez projeté sur elle votre cinéphilie.
Alors, c'est ce qu'on dit dans le film, en tout cas, mais il n'y a pas que moi, il y a la mère aussi, on a choisi le prénom ensemble. On aimait tous les deux beaucoup Tess, notamment de Roman Polanski, on avait été fascinés par ce film à l'époque. Et donc, on en parle dans le film d'ailleurs, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on transmet sans le vouloir? Là, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est avant tout qu'elle fasse ce qu'elle aime. Mais à travers le jeu de l'acteur, il y a plein de petites choses sur la vie aussi, parce que mon père est philosophe, vous le rappeliez. Et donc, il y a aussi, par exemple, autour de Cyrano de Bergerac, puisqu'il y a Philippe Torreton et Jacques Weber qui en parlent dans le film. La question, c'est qu'est-ce qui est important, la beauté intérieure, la beauté extérieure. Et donc, c'est vraiment une initiation au monde aussi. C'est comme un petit, je dirais pas un conte philosophique, j'exagérerai pas, mais il y a ce côté roman d'apprentissage ou de film d'apprentissage plutôt dans le film aussi.
Il y a la question d'abord, pourquoi veut-on être acteur? Parce que c'est vrai qu'on voit énormément d'enfants, d'adolescents et même de jeunes gens qui veulent être acteurs aujourd'hui. C'est devenu exponentiel. Et ça reste une bonne question. Pourquoi veut-on être acteur? Vous avez trouvé la réponse à force de poser la question.
Est-ce qu'on veut être acteur pour jouer? Et ça, j'adore quand Michael Lonsdal, par exemple, dit que lui, il veut rester comme un enfant et que les acteurs, pour lui, c'est comme des enfants qui continuent à jouer, à faire comme si. Ou est-ce qu'on veut être acteur pour être connu? Alors, si c'est la réponse, c'est la première voie, tant mieux, c'est formidable. Si c'est la deuxième, c'est peut-être pour des mauvaises raisons.
C'est peut-être pour des mauvaises raisons, mais ça n'a pas empêché de devenir de grands acteurs, parfois, qui voulaient tout simplement être connus.
Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait que la reconnaissance qui compte. Par contre, c'est vrai, il y a Yves Afonso, par exemple, dans le film, qui est un acteur qui joue beaucoup de second rôle, qui dit qu'il faut être un minimum connu si on veut avoir accès à des rôles. Parce que quand on est comédien, c'est ça le problème. Denis Podalydès le rappelle aussi, c'est qu'il faut que ce soit un metteur en scène ou un réalisateur qui vous choisisse.
Sauf si on est à la Comédie Française, comme Denis Podalydès d'ailleurs. Oui, là, on est sûr d'avoir des rôles.
Avant d'y être arrivé, il avait déjà un long parcours.
Alors, comment le devient-on acteur? Parce que ça aussi, c'est une question que se pose votre fille dans ce film.
Alors, elle a commencé par suivre les cours Florent, en l'occurrence à Paris, puisqu'il y a des cours pour les enfants maintenant qui existent.
Oui, dès 7 ans en fait. Ça fait peur, non?
Ça fait pas peur du tout, parce que je pense que toutes les personnes qui suivent ces cours ne veulent pas forcément devenir acteurs, mais c'est une expérience. Et donc, elle a été passionnée par ça. Elle a vu certains acteurs qui sont dans le film, comme Patrick Chenet, par exemple, on l'avait amené au théâtre le voir, et puis après dans les coulisses, puisque je le connaissais. Et donc, le rapport aux coulisses, c'est important aussi d'ailleurs, de voir après l'envers du décor. Je pense que c'est quelque chose de fascinant quand on est dans les coulisses d'un théâtre. Et donc, je pense qu'elle a été émerveillée par ça. Et donc, qu'elle avait vraiment envie de jouer. Et dans le film, d'ailleurs, elle joue des scènes avec Jacques Weber, par exemple. Il a accepté de rejouer Cyrano de Bergerac avec elle, ce qui est quand même particulier, une Roxane de 10 ans. Et Denis Podalydès, lui, il a fait mieux encore parce qu'il fait vraiment un cours de direction d'acteur. Là, avant le tournage, c'est amusant, je lui avais dit, quand tu verras Podalydès, donc préparé, sors-lui les répliques de Roméo et Juliette de Shakespeare, on verra comment il va réagir. Il n'était pas au courant. Et naturellement, lui, il lui dit... Plus tard, si tu es comédienne, peut-être tu feras des grands rôles comme Juliette de Shakespeare. Et à ce moment-là, elle lui sort la réplique. Donc évidemment, il est sidéré. Et il commence à lui faire un cours de direction d'acteur pour lui dire comment il faut jouer Roméo et Juliette.
Votre fille, dans ce film, se retrouve à table avec Patrick Chenet, un déjeuner familial. Et autour de Patrick Chenet, il y a toute sa famille. Ils sont tous acteurs.
Oui, alors là, ça remonte bien avant le cinéma. Il y avait dans la tradition théâtrale des grandes familles d'acteurs. Et c'est vrai que Josiane Soleru, qui joue le mensonge d'ailleurs actuellement en théâtre avec notamment... Arditi, Émilie Chenet, la fille de Patrick Chenet, sont actrices toutes les deux, et même Victor Chenet, qui a 11 ans, souhaite devenir acteur plus tard. Et donc il y a ce côté familial qui est évidemment un parallèle avec ma propre famille, parce que c'est là où la fiction intervient aussi, où je voulais montrer que, par exemple, la grand-mère d'Anastasia a très peur qu'elle devienne comédienne. Et donc il y a aussi un happening familial.
Et votre père, le philosophe, lui, rêvait d'être acteur quand il était jeune. Absolument. Alors justement, ça pose une question que je trouve très intéressante aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encourager les jeunes ou au contraire les empêcher de devenir acteurs? Je dis les empêcher, ne serait-ce que pour mesurer l'intensité de leur vocation.
Alors moi, je pense que le plus important, c'est qu'on soit passionné dans la vie. Bon, ça, c'est mon point de vue. Et quelle que soit la passion, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir plein de passions autres que pour le théâtre ou pour le cinéma. On peut être passionné par le sport, on peut être passionné par l'actualité, on peut être passionné par plein de choses. Mais quand on est passionné par quelque chose, on a envie de le faire. Et ça, je trouve ça formidable. Et donc, je pense que les parents, ils doivent non pas freiner, mais encourager les passions. Et donc ça, c'est un point de vue personnel. Mais jamais vouloir choisir à la place des enfants.
Mais si quelqu'un est passionné et qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas doué.
Mais c'est pas grave parce que moi,
je connais plein de petites filles qui sont passionnées par l'idée de devenir chanteuse et qui n'ont pas de voix.
Moi, je ferai l'éloge de l'amateurisme aussi. Je pense qu'on peut être très, très heureux en étant musicien amateur, en étant acteur amateur. C'est pas forcément une finalité professionnelle.
Il y a Denis Podalydès qui pose à votre fille une question que je trouve fondamentale. Il dit, et si ça n'arrive pas, si elle ne devient pas actrice, est-ce que c'est grave? Est-ce que ce sera grave pour toi, lui demande-t-il?
Justement, là, c'est un moment clé du film parce qu'on voit, et là, c'est du documentaire, pour le coup, on voit qu'elle est troublée par cette question et qu'elle se pose cette question et qu'elle s'interroge sur son avenir. Mais enfin, elle a encore le temps. Elle avait 10 ans quand on a fait le film, c'est-à-dire qu'on a fait le tournage il y a un an. Elle en a 11 aujourd'hui. Et plus que jamais, elle veut suivre des cours de théâtre, en tout cas.
Ça, c'est certain, après ce premier film, et puis ça va encore être pire, on en reparlera. Mais d'abord, Frédéric Socha, il y a une expression qui revient constamment dans la bouche des comédiens et des comédiennes aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Vous y faites allusion dans ce film, c'est quoi le lâcher prise?
Alors là, justement, c'est amusant parce que c'est Émilie Chenet, la fille de Patrick Chenet, donc, qui est comédienne, qui parle de cela. Et ma fille, donc, qui est très naturelle, dit mais c'est quoi justement? Parce que pour un enfant de 10 ans, lâcher prise, c'est peut-être pas
fort. Mais même pour un homme de 55 ans, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire.
Eh bien, c'est oublier, s'oublier en fait. Et donc être à la fois soi et quelqu'un d'autre, en l'occurrence quand on est comédien. Donc,
ça s'appelle être acteur, on en parle depuis des siècles.
Mais en s'oubliant. Denis Podalydès dit aussi les choses de manière différente. Il dit que souvent, jouer, c'est mal jouer. Quand on veut faire une composition qu'on voit qu'on joue, en général, ce sont des mauvais acteurs. Et le jeu est vraiment fort quand il y a une sorte d'oubli de soi. Et quelqu'un qui est formidable pour ça, c'est Michael Lonsdale. Où qu'il soit, dans quel que soit le rôle, il est Michael Lonsdale.
Frédéric Socha, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir réalisé avant tout une sorte de démo publicitaire pour votre fille de 10 ans, enfin de 11 ans maintenant? On se dit, après l'avoir vue pendant une heure, elle est tellement à l'aise et tellement formidable, on se dit que ce serait fou de ne pas l'engager.
On verra. Mais donc, ce que j'ai surtout envie, c'est que les personnes qui voient le film prennent plaisir à voir le film, qu'ils veuillent ou pas être acteurs d'ailleurs, parce que je fais une petite parenthèse sur le documentaire. Pour moi, un documentaire, ça raconte une histoire. Et donc, il ne faut pas être uniquement emprisonné dans un sujet, quelle que soit l'importance du sujet. Donc, il y a la narration, il y a un côté ludique, il y a, j'espère, des moments émouvants, des moments drôles. Et donc, mon objectif principal quand je fais un film, celui-là, mais aussi un autre, c'est d'abord de raconter une histoire et que les personnes qui le voient, je l'espère, prennent plaisir à voir le film.
Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir fait à votre fille le pire cadeau qui soit? C'est-à-dire, on sait très bien ce qu'il advient des acteurs enfants. Elle a eu son film, elle a eu son premier rôle, elle l'a eu à 10 ans. On sait très bien que c'est à la fois très très dur de revenir à la réalité ensuite. C'est-à-dire que tout à coup, plus personne ne s'occupe de vous et vous êtes une petite fille parmi d'autres dans une cour d'école. Et puis deuxièmement, c'est que c'est extrêmement dur pour un acteur enfant de faire une carrière plus tard. C'est très très rare en France, je sais pas, on doit en avoir deux. Il y a Brigitte Fossé, il y a Benoît Magimel.
Alors là, heureusement, il y a sa mère aussi qui est là pour remettre l'église au milieu du village. Comme on dit, par exemple, j'ai dû... la convaincre, parce que Anastasia vit à Bruxelles maintenant, d'accepter qu'elle fasse une émission sur Canal+, parce qu'elle ne voulait pas qu'elle rate une demi-journée d'école pour ça.
Sa mère est psychiatre, on la voit dans le film, donc elle est prête pour l'après.
Et puis, ce qui est le plus important, c'est, je pense qu'elle a vraiment les pieds sur terre, ma fille, parce qu'elle-même dit que c'est pas grave, enfin, on verra plus tard ce qui se passe, mais je ferai une petite parenthèse sur un parallèle entre l'acteur et le journaliste. Je pense que ce qui est le plus important, c'est l'attention qu'on a sur l'autre. Et par exemple, dans un échange qu'elle a avec Philippe Torreton, on voit qu'elle est vraiment intéressée par ce que Philippe Torreton raconte. Et donc, quand on est intéressé par ce que dit l'autre, quand on est curieux, c'est ce que dit Micheline Prel aussi, le plus important pour elle, c'est rester curieux, même à 93 ans, puisqu'elle a 93 ans aujourd'hui, eh bien, c'est gagné. Quand on est attentif à l'autre, quand on est curieux de l'autre, peu importe après ce qu'on devient ou ce qu'on ne devient pas, c'est qu'on aime la vie, tout simplement.
Je veux être actrice, c'est un film de Frédéric Socher avec Nastassia Socher, mais aussi Patrick Chenet, Michael Lonsdale, Jacques Weber, Philippe Torreton, Micheline Prel, Denis Podalydès,
François Morel.
Ça sort dans beaucoup de salles pour un film d'une heure seulement. Cinq salles à Paris, une trentaine en province.
Voilà, donc ça c'est formidable parce que c'était pas prévu du tout au départ comme ça. Donc c'est une bonne surprise.
Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
Julien Donadi, vous publiez votre premier roman, Vie et œuvre de Constantin Hérode, chez Grasset. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a donné l'idée de ce roman ?
Alors, l'idée de ce roman, c'est bien sûr mon séjour à Rome pendant 4 ans où j'ai effectivement effectué les missions de mon personnage principal, ou plus
vous
exactement
étiez
de mon narrateur.
Donc attaché culturel, puisque
c'est ça. Alors, plus précisément, j'étais attaché avec un dossier particulier qui était le dossier du livre, donc la promotion des auteurs français en Italie, le réseau des bibliothèques françaises en Italie. Et donc, effectivement, ce que je décris dans le roman sont des choses non pas que j'ai vécues, puisque, évidemment, c'est pas du tout un roman autobiographique. Puis en plus, c'est décalé dans le temps de 15 ans par rapport à ma propre expérience. Mais le point de départ du roman, vraiment l'idée initiale, c'est une visite au cimetière qu'on appelle Acattolico à Rome, donc le cimetière des non-catholiques. Cimetière protestant, et on a aussi des orthodoxes, des juifs qui sont enterrés là. Il y a même Gramsci qui est enterré là, qui était protestant. Et c'est assez émouvant ce cimetière, puisque c'est plein d'histoires d'exilés généralement, de gens qui sont venus à Rome, qui ont fini leur vie en exil parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans le pays dont ils étaient originaires. Il y a notamment un tombeau assez massif d'un général confédéré américain, donc qui a fui les États-Unis après la guerre de sécession. Et c'est ce cimetière qui m'a donné l'idée de ce personnage d'exilé à Rome, Constantin
Hérode a vécu toute sa vie à Rome en exil, et puis il y a la guerre en ex-Yougoslavie qui va le ramener sur le trône de son pays. Pas seulement la guerre d'ailleurs, il y a aussi la protection de la France et des pays occidentaux. Tout ça va contribuer à le ramener sur le trône, puisqu'il descend de la dernière famille régnante d'un petit pays qui s'appelle la Slovénie. Et une fois sur le trône, il va se rendre coupable de crimes contre l'humanité. Il va passer 15 ans en prison et mourir dans sa geôle. Son histoire est racontée donc par un Français qui a été l'attaché culturel de l'ambassade de France à Rome et qui était devenu son ami. Au fond, c'est la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui fait qu'un roi est roi ? Et par la même occasion, qu'est-ce qui fait qu'un vieux monsieur charmant, une fois monté sur le trône, peut se révéler un monstre ?
Au-delà de ça, je dirais que la question que pose le livre, c'est comment peut-on vraiment connaître quelqu'un ? Quelle est la vérité d'un être ?
Tant qu'il n'a pas été roi, tant qu'il n'a pas eu le pouvoir.
Voilà, ou en tout cas, tant qu'il n'a pas été plongé dans des circonstances qui l'amènent à se révéler. C'est d'ailleurs même pas tout à fait ça, parce que je ne sais pas si ces crimes de masse dont se rend coupable Constantin à la fin du roman sont vraiment la vérité de Constantin. Simplement, plongé dans ces circonstances-là, Constantin devient ce criminel de guerre.
Il n'était pas si charmant que cela. Parlant de la rafle des juifs italiens en 1943, il dit les Youpins. Ça aurait dû alarmer quand même votre personnage de narrateur.
En effet, ce personnage, il a deux facettes tout au long du livre. Il a une facette de vieux monsieur charmant et puis il a cette facette un peu plus sombre. On sent chez lui une espèce de violence rentrée, ou en tout cas quelque chose de beaucoup moins sympathique qu'il peut montrer par ailleurs.
Il pose un autre problème, votre héros, enfin Constantin Hérode, qui donne son nom comme titre à ce premier roman. Il dit que quand deux peuples sont censés vivre ensemble et n'en peuvent plus l'un de l'autre, au fond, autrefois, on les laissait se massacrer et puis on voyait bien ce qui arrivait. Aujourd'hui, on les interrompt immédiatement.
Alors,
c'est un problème, que faut-il faire ?
C'est vrai, ça nous amènerait sur une discussion géopolitique pour laquelle je ne suis pas sûr d'avoir les compétences, mais c'est vrai qu'on est entre la politique des droits de l'homme et puis la politique des intérêts, laquelle finalement est génératrice du moins de perturbations et du moins de crimes. C'est un long débat.
Mais les pays occidentaux, au fond, on se demande s'ils n'ont pas la nostalgie aujourd'hui à la fois de la dictature de Tito en ex-Yougoslavie ou de celle de Saddam Hussein en Irak, parce que vu le chaos que ça a pu donner ensuite, au fond, ça nous rassurait.
En tout cas, moi, ce que je dirais, et puis qui est illustré par un personnage du roman qui n'apparaît pas dans le roman, mais qui est présent comme fantôme en quelque sorte, qui s'appelle Igor Martinov, qui est un écrivain slovane, ce que pourraient avoir les puissances occidentales, c'est la nostalgie de l'Empire, c'est-à-dire d'un monde pacifié par la puissance.
Par la puissance venue d'en haut.
Oui.
Qui coiffe au fond toutes les nationalités, toutes les tribus et les oblige à vivre ensemble.
En effet, mais qui est bien différente de la dictature d'un Saddam Hussein, c'est-à-dire que l'empire au sens où le défend Igor Martinov, justement, c'est l'empire qui permet la coexistence des peuples plus que une ethnie qui s'impose par rapport aux autres.
Votre personnage de Constantin Hérode reproche également aux Occidentaux de croire à la réalité d'une société multiculturelle, à une sorte de religion syncrétique qui aurait pu exister dans son pays, qui est un pays imaginaire, hein, la Slovénie bien entendu, un mélange de catholicisme, d'orthodoxie, d'islam. Lui, il prétend qu'il n'y a pas plus de syncrétisme en Slovénie qu'à Paris. Les religions coexistent et puis c'est tout.
En effet, mais alors là, je pense que c'est Anastasia Colosimo qui pourra parler plus précisément du sujet. Mais je pense qu'effectivement, les passerelles entre les religions peuvent exister jusqu'à un certain point qui est le dogme de chaque religion.
Le multiculturalisme, ça n'existe pas ? C'est un fantasme d'occidental, Anastasia Colosimo ?
Non, pas du tout. Je pense que ce n'est pas un fantasme d'occidental. Au contraire, je pense que c'est le grand défi qui nous attend.
Oui, mais jusqu'à présent, dans le passé, ça se serait produit quelque part ou au fond, ça n'est juste qu'une juxtaposition. On l'a vu, cette juxtaposition, d'ailleurs, volée en éclats au Liban, en ex-Yougoslavie, un peu partout.
Je pense que c'est très compliqué. En même temps, j'ai envie de répondre que les sociétés anglo-saxonnes, aujourd'hui, c'est un modèle multiculturaliste. Mais il faut savoir que le modèle multiculturaliste, c'est un modèle où, en fait, les communautés ne se rencontrent pas. Bon, voilà, c'est l'un ou l'autre, quoi. Si les communautés se rencontrent, c'est compliqué. Si elles ne se rencontrent pas, bah, c'est triste.
Julien Donadi, la plus grande partie de ce roman se passe donc à Rome, dans les années 90, dans l'Italie de Berlusconi. Et de même que vous posez, au fond, la question en filigrane, qu'est-ce qui fait qu'un monsieur charmant devient un monstre, vous demandez comment un pays aussi raffiné que l'Italie peut sombrer dans la vulgarité berlusconienne.
Alors ça, c'est un grand mystère, bon, un grand mystère qui avait été annoncé par Pasolini en son temps, donc déjà bien avant l'arrivée au pouvoir de Berlusconi.
À quel film faites-vous allusion ?
Oh, bah, je pense à son œuvre en général, et plutôt à ses écrits en l'occurrence. Mais vraiment, ça, c'est une grande surprise quand on arrive en Italie. En même temps, bon, on est préparé par ce qu'on a pu lire dans la presse et dans la littérature. Mais c'est vrai que moi, les deux premières années que j'ai passées à Rome, qui ont été les deux dernières années de Berlusconi, la presse ne parlait que de ça et on avait l'impression que l'Italie était un mouroir. C'est-à-dire qu'on assistait à la mort ou en tout cas à la déchéance du prince.
Il y a un portrait assez cruel des experts de la culture et notamment des conseillers culturels en tout genre auxquels dont vous avez fait partie, Julien Donadi. Vous dites que de la même manière qu'une petite caste d'énarques héritières de l'aristocratie avait fait main basse sur la diplomatie de la France, une autre caste, souvent issue des mêmes familles et des mêmes écoles, décidait en souveraine de ce qu'il fallait penser des lettres françaises.
En effet, alors la charge est peut-être un peu dure, le ton du roman est ironique, je dirais, donc il ne faut pas non plus radicaliser mon propos. Simplement, c'est vrai que ce monde diplomatico-culturel est un monde assez surprenant quand on commence à le découvrir. Surprenant, je dirais, pour plusieurs raisons. C'est un monde qui a gardé un certain prestige, qui est un prestige qui est assis sur peu de choses finalement, et qui pour autant est finalement très peu visible depuis la France. C'est-à-dire que c'est un prestige qu'on acquiert auprès des élites du pays local, mais finalement ce qui se passe, bon dans mon cas en Italie, mais dans d'autres pays c'est la même chose, est finalement très peu vu depuis la métropole, depuis la France, depuis Paris. Et donc ça attire, je dirais, des profils assez particuliers de personnalités qui ont envie de briller, qui ont ce besoin de briller, mais qui ont aussi besoin d'être un petit peu protégés de ce qu'on peut voir d'eux en France. Je le dis parce que j'ai observé un certain nombre de personnes. Alors, personne.
Et vous en avez fait partie, peut-être vous-même.
J'espère que non. En tout cas, personne ne peut se reconnaître dans le roman en tant que tel. Mais c'est un phénomène que j'ai observé à plusieurs reprises.
Personne ne se reconnaîtra non plus dans cette phrase. Vous dites que les écrivains eux-mêmes travaillaient à leur anéantissement. Vous les montrez dans les dîners de l'ambassadeur. Ils n'ont rien à dire sur le monde. Au fond, Ils ont renoncé à regarder le monde et même à tenter de l'expliquer. Alors là, on est loin de Malraux, dont vous parliez tout à l'heure. Les écrivains, dites-vous, ont cédé la place au showbiz.
Alors là, ça relève vraiment, encore une fois, mon livre n'est pas autobiographique, mais ça relève vraiment du témoignage. C'est-à-dire, ce sont des choses que j'ai observées. Alors, je les radicalise peut-être un peu dans mon propos pour bien me faire comprendre.
Il faudra que les écrivains français à l'étranger sont généralement reçus à la table de l'ambassadeur.
Assez royalement.
Avec les conseillers culturels dont vous faisiez partie, assis à leur côté.
Tout à fait. Et j'ai observé parfois cette scène que je décris de l'ambassadeur qui tournait en rond dans son discours parce qu'il essayait d'initier une conversation avec quelqu'un qui finalement avait peu de choses à lui répondre. C'est pas général ce que je dis là, attention, je voudrais pas non plus que tous les écrivains que j'ai pu recevoir se reconnaissent dans le portrait, hein, c'est pas du tout le cas, mais je l'ai observé à plusieurs reprises.
C'est quoi la morale de votre premier roman, Julien Denady ?
Alors, la morale de ce premier roman, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-on vraiment connaître la vérité d'un être ? Et finalement, peut-on même connaître la vérité qu'on a en soi-même ?
Vie et œuvre de Constantin Hérode, c'est paru chez Grasset.
Europe 1 Social Club.
20h, 22h.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes jusqu'à 22h avec Julien Denady, avec Frédéric Socher, Anastasia Colosimo, Astrid Fontaine et Alexandre Lacroix qui publie « Ce qui nous relie » aux éditions Alary. Vous avouez dans ce livre, Alexandre Lacroix, que vous êtes resté longtemps aveugle aux effets existentiels de l'Internet. Ce livre, au fond, c'est votre prise de conscience ?
Oui, c'est-à-dire que c'est surtout un livre un peu surprenant. Je ne suis pas... Je travaille pas dans le secteur de la technologie ni du numérique. Je ne suis pas un geek, c'est-à-dire quelqu'un qui serait suréquipé. Et donc, en fait, mon métier à Philosophie Magazine, c'est d'observer l'histoire contemporaine et de réfléchir au sens de cette histoire contemporaine. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la technologie, parce que j'ai l'impression que notre époque, il y a deux manières de la voir. On peut la considérer comme une époque de déclin, et par certains côtés, on ressemble un peu aux citoyens d'Alexandrie, aux citoyens de l'Empire tardif romain, c'est-à-dire que l'Occident, derrière nous, a accumulé des trésors, c'est une civilisation où il fait bon vivre, qui est paisible, mais dont l'heure de gloire est passée. Donc on peut vivre la situation actuelle de la France et de l'Europe comme celle d'un inéluctable déclin, mais on peut aussi envisager l'histoire contemporaine de manière complètement différente, et se dire qu'on a eu une chance incroyable, qui est d'avoir vu un des chocs historiques les plus extraordinaires qui ait jamais eu lieu, c'est-à-dire une révolution du signe. C'est-à-dire que ce qui est apparu depuis Internet et le web, c'est une révolution du signe comparable à l'invention de l'imprimerie à l'époque de l'humanisme, à la fin du Moyen-Âge, comparable à l'invention de l'écriture il y a 5000 ans dans les sociétés du croissant fertile. Et ces révolutions du signe, ces moments où en fait une société trouve une nouvelle manière de faire circuler les mots, l'information,
de véhiculer des traces. On pourrait y ajouter l'invention de la télévision après la Seconde Guerre mondiale.
Je ne crois pas, je crois qu'il y a une singularité. Alors effectivement, vous mettez le doigt sur une chose, c'est comment on date une révolution du signe. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un paradigme à un autre. Par exemple, j'ai fait allusion à l'invention de l'imprimerie, nous pensons l'avoir inventée avec Gutenberg. En fait, c'est pas tout à fait le cas. C'est en Chine qu'elle s'est inventée dès le 11e siècle, l'imprimerie. Donc, les révolutions du signe, c'est toujours un moment où diverses technologies convergent vers un même résultat.
Je faisais allusion au fait que tout le monde parle de l'invention de l'imprimerie comme quelque chose de très noble, qui n'a apporté que des bienfaits. Et quand on parle de l'invention de la télévision, alors là, personne ne veut le mettre au même niveau. Et pourtant, ça a changé les comportements, les vies. Si aujourd'hui, les villages sont vides le soir, ici dans les rues de Paris, on a tendance à s'ennuyer, c'est aussi parce que la télévision est là et qu'elle a pris la place de pratiquement tous les autres moyens de passer des soirées.
Alors, les technologies ont des effets sociaux, ont des effets politiques, mais pour ce qui est de l'Internet, et donc moi je reste sur mon fil et je considère que la date de 1989, c'est-à-dire l'invention du web, est une date importante. Si on regarde ce qui s'est passé de 1989 à nos jours, on voit une technologie, celle de la connexion, du réseau, qui a modifié de fond en comble la manière dont on se rencontre, la manière dont on aime, la manière dont on nourrit une amitié, la manière dont on travaille dans tous les secteurs de l'activité économique, le monde de la finance, le monde de la croyance, le monde de la géopolitique. Et donc en fait, C'est ça qui est incroyable dans cette révolution, c'est qu'elle touche à tous les secteurs de l'activité humaine. Et quand on regarde les révolutions du signe, c'est toujours la même chose qui se produit. C'est l'ampleur, en fait, des dégâts ou des métamorphoses. Or, la télévision s'inscrit dans la continuité de la radio et me paraît pas avoir produit des effets aussi vastes. Alors, voilà. Mais moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a amené là, c'est de me dire, tiens, tout a changé en 25 ans. J'ai eu la chance de voir ça. C'est-à-dire, je suis né dans un monde qui a disparu. Un monde où les gens dans le métro, ou au café, ou au square, ne sortaient pas leur téléphone portable, ni dans les salles d'attente des médecins, où on essayait de communiquer par téléphone, mais où ça marchait pas bien, il n'y avait pas de téléphone portable, où il n'y avait pas de mail. Et en fait, un monde où il y avait de l'attente, où il y avait des lenteurs, un monde où il n'y avait pas non plus cette espèce de télépathie assistée par les machines dans laquelle nous sommes immergés. Et donc, avoir vu cette métamorphose, c'est une chance. Encore faut-il être capable de la digérer et de l'interpréter philosophiquement. Voilà, c'est pour ça que c'est pas un livre seulement sur la technologie, mais plutôt un livre sur c'est une tentative de saisie philosophique d'un changement social et politique de grande ampleur.
On y revient dans un instant, Alexandre Lacroix.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Alexandre Lacroix, dans Ce qui nous relie, votre nouveau livre qui est paru aux éditions Alary, il y a un certain nombre de rencontres, de personnalités qui sont mises en valeur, parce que pour vous, elles symbolisent quelque chose, à la fois de ce qui nous relie et de ce que Internet a changé dans nos vies. La première personnalité, c'est Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, que vous avez même rencontré. Vous faites partie des rares personnes qui ont rencontré Julian Assange. Qu'est-ce qu'il a démontré pour vous, Julian Assange? Ou du moins, de quoi vous a-t-il convaincu?
Alors, je suis allé le rencontrer effectivement deux fois. Une fois en 2011, quand il était en résidence surveillée à Lingamo. Une deuxième fois à l'ambassade d'Équateur, où il est toujours
où il est réfugié,
reclus, réfugié.
Il est accusé de viol en Suède par deux femmes.
Oui, alors,
il faut savoir ce que le viol signifie en Suède. C'est un rapport sexuel sans préservatif, s'il n'a pas été explicitement consenti. Et c'est le fait de faire l'amour à une femme endormie. Donc, il n'a pas violé comme on pourrait le croire.
Il n'est d'ailleurs pas formellement inculpé. Il est demandé à être entendu comme témoin dans une affaire de viol. Donc, mais bon, sans s'attarder sur cette histoire, cette sombre histoire, il a apporté une idée nouvelle. Et en fait, je crois que c'est une nouvelle notion de l'État, une nouvelle définition de l'État. C'est-à-dire que j'ai lu ses écrits, parcouru son blog, discuté avec lui. Et bon, ce qu'on apprend sur l'État, c'est que l'État, soit on le voit comme une entité qui possède le monopole de la violence légale, c'est la définition classique, celle de Hobbes, celle de Weber, donc avec des fonctions régaliennes. Soit on le voit comme l'État-providence, c'est-à-dire une entité qui a pour fonction d'assurer une certaine régulation sociale, une certaine égalité, une certaine redistribution des revenus. Mais lui, Julian Assange, j'y vois l'État comme un ordinateur. Alors, vous me direz, pour un hacker, pour quelqu'un qui était hacker dans les années 80, c'est presque une déformation naturelle. Mais il le voit comme un ordinateur, c'est un État-computeur qui collecte des données sur les citoyens, les compagnies, les organisations, et qui émet des données. Si on regarde l'État ainsi, tout d'un coup, on se dit, oui, mais alors, dans cet État, dans cette boîte, il y a des informations qui restent cachées. Et c'est vrai que ce qu'il a reconfiguré dans les luttes politiques, Julian Assange avec Wikileaks, c'est l'idée que les informations qui sont cachées à l'intérieur des organisations, et notamment de l'État, sont les informations qui concernent souvent des scandales, des affaires de corruption, et que donc il y aurait une nouvelle forme de lutte politique ou de lutte pour la démocratie à inventer qui consiste à faire sortir ces informations. Donc c'est le travail qui a été mené par Wikileaks en publiant toutes sortes d'informations. Et ce qui était passionnant dans les dialogues avec lui, c'est de me rendre compte à quel point il n'aimait pas le mot de transparence. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il disait « mais je suis pas un fan de la transparence, je comprends pas cette valeur, c'est pas la mienne ». Il disait « moi je m'intéresse à l'information ». Mais que voulait-il dire par là? Eh bien, il était tout à fait en résonance avec un énoncé qui est cher à tous les hackers, qui est de dire « transparence pour les forts et les puissants, donc pour les États, les grandes organisations, respect de la vie privée pour les faibles.
Les faibles étant les individus, les citoyens, y compris quand ils sont milliardaires.
Ah oui, ce serait une transition.
Non, je dis ça parce que quand on dit les puissants, on peut penser que les milliardaires, eux, ils doivent être astreints à une transparence au même titre que les États. Mais je ne crois pas que ce soit le cas de ce que pense Julian Assange.
Non, ce qu'il pense, c'est qu'effectivement, il y aurait presque deux projets tout à fait antagonistes. D'un côté, le projet de la NSA, qui est un projet qui consiste à surveiller et à garder des traces de tout ce qui se passe dans la vie privée de chaque individu. Et ça, c'est un projet de surveillance globale. Et puis, son projet à lui, qui est un projet qui utilise aussi la technologie, mais en un autre sens, et qui consiste à essayer de dévoiler ce qui est caché à l'intérieur des machineries étatiques.
Il y a un autre personnage important que vous appelez Philippe dans le livre, qui est un complotiste et qui a trouvé le moyen sur Internet de répandre ses théories. Il n'est pas le seul, il y en a énormément. Vous en concluez d'ailleurs, Alexandre Lacroix, que le nombre de complotistes aujourd'hui, ce que vous appelez les truthers, c'est-à-dire les gens qui veulent imposer ou en tout cas officialiser leur vérité à eux, truth, la vérité, au fond qu'ils rendront difficile, voire impossible, l'écriture de l'histoire contemporaine. Mm-hmm. Alors, vous les pensez si puissants ?
Oui, je crois. Alors, le livre est fondé sur des rencontres et des réflexions qui sont nées de ces rencontres. Et j'ai rencontré au Paraguay un homme que j'appelle Philippe, donc, et qui était un ancien militaire français en rupture de banc, en marge des circuits, disons, du pouvoir ou des circuits officiels, et qui avait pour activité, mais comme beaucoup d'autres, comme sans doute des centaines de millions d'autres personnes dans le monde, de diffuser, alors, ce qu'on appelle dans les médias officiels des théories du complot. Et c'est là que la terminologie est intéressante. Quand vous dites c'est une théorie du complot ou c'est un complotiste, vous êtes déjà dans le péjoratif. Eux-mêmes, le terme qu'ils s'appliquent, ce sont des truthers, c'est-à-dire des chercheurs de la vérité. Et sa vision du monde, si je la résume en quelques mots, va paraître délirante. Il va dire, c'est l'idée qu'il y a un grand programme eugéniste qui va se mettre en place et aboutir à l'extermination des 9/10 de l'humanité. Ça va avoir lieu à peu près dans la prochaine décennie. Donc ça fait peur. Mais dans le détail, c'est brillant. C'est-à-dire que le schéma général peut paraître délirant, mais le détail est brillantissime et il m'a fait voyager. Il m'a parlé d'une obscure station d'observation des aurores boréales qui servirait en fait à diffuser de l'électricité dans la ionosphère pour provoquer des séismes comme celui de Fukushima. Il m'a parlé d'anciens camps de détention des Japonais qui ont été déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, qui seraient toujours entretenus dans le but d'organiser un massacre de masse aux États-Unis, les camps de la FEMA. Il m'a parlé de sociétés secrètes. Et donc, petit à petit, en fournissant pléthore de documents et d'arguments, il m'a reconstruit une histoire universelle quasiment depuis l'exécution des Templiers, si vous voulez, parfaitement cohérente et ordonnée, où on découvre que quelques centaines de personnes tirent les ficelles. Donc, l'objet intellectuel est absolument fascinant, mais le rapport à cet objet intellectuel, c'est un rapport que lui a engagé, c'est un rapport de croyant en une vérité. Donc, soit vous êtes dans son camp, lui il est prosélyte, soit vous êtes dans son camp, vous croyez aussi, soit vous séparez de son récit et vous êtes un infidèle et un ennemi. Donc, mais c'est absolument passionnant. Alors vous disiez, est-ce qu'ils sont puissants ? Oui, je crois qu'ils sont puissants parce que...
Au point d'empêcher qu'on puisse écrire un jour l'histoire de notre époque.
Je pense qu'ils sont quelques centaines de millions dans le monde. Je pense aussi que chacun de ceux qui nous écoutent en ce moment en connaît. C'est-à-dire on connaît des gens qui sont intéressés par ces théories du complot, qui adhèrent à certaines. Alors qui sur le 11 septembre, qui va croire qu'il y a des diffusions de chemtrails, c'est-à-dire par les avions de produits chimiques stérilisants dans les airs, qui va croire que... Mais enfin, je pense que...
Il y en a tellement dans tous les domaines que même les anticomplotistes aujourd'hui ont des raisonnements qui ressemblent aux raisonnements des complotistes.
Oui, oui. Et donc je crois qu'il y en a dans toutes les familles, que beaucoup d'adolescents rencontrent ces théories du complot, et que ce qui rend les choses vertigineuses, c'est que si vous voulez, la preuve de la vérité en histoire est classiquement adossée à ce qu'on appelle la preuve de Mabillon. C'est-à-dire, on établit une vérité quand on a deux récits dont on sait qu'ils sont complètement indépendants et qu'on peut comparer. Et qui sont, par exemple, Première Guerre mondiale, vous lisez Henri Barbusse, Le Feu, vous lisez Les Orages d'Acier de Hans Junger, ils parlent de la même chose. La Première Guerre mondiale a existé. Le problème... Non mais c'est rassurant de savoir que la Première Guerre mondiale a existé. Mais le problème, c'est que dans un monde de la connexion étendue, où toutes les sources sont interconnectés et où en même temps les archives papier ont disparu. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a des banques de données qui sont mises à jour mais on n'a plus d'archives papier. Le travail de l'historien va devenir compliqué, pas sur des grands sujets, pas sur un sujet comme le 11 septembre où il y a des sujets qui vont être très bien documentés, mais il y a d'autres sujets sur lesquels un certain trouble est entretenu. Et par exemple ce que je racontais sur la station d'observation des aurores boréales, un grand récit très inquiétant sur cette station est dans un rapport officiel du Parlement européen de 1999. C'est un récit qui vient d'un auteur qui est lui-même un truther, mais qui a essaimé dans un document officiel. Et cette porosité des documents officiels et des versions officielles avec des versions officieuses ou des versions que voilà qui viennent des truthers va être sans cesse croissante. Donc je crois que c'est un des phénomènes sur lequel il faut attirer l'attention et réfléchir. Si
il y a
on veut.
Un autre personnage très important dans votre livre, c'est le milliardaire Peter Thiel. On n'aura pas le temps d'en parler, mais lui, il est libertarien et transhumaniste. Là aussi, vous, quelle morale tirez-vous de ce livre ? Ce qui nous relie aujourd'hui à part Internet, c'est quoi ?
Eh bien, c'est que ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit, et le milliardaire montre que lui, il investit aujourd'hui dans les connexions du corps humain et de la machine, et qu'en fait, on est entré dans l'âge de la connexion. Mais ce serait naïf de penser que ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que on est rentré dans l'âge de la connexion, mais le coup d'après, ça va être le moment où il y aura des interfaces homme-machine de plus en plus nombreuses, si bien que nous ferons nous-mêmes plus ou moins partie du réseau.
Vous pensez qu'on sera modifié génétiquement comme les plantes ?
On peut penser que d'ici 5000 ans, l'humanité ne sera plus une et qu'elle sera divisée en plusieurs courants. Certains seront peut-être des humains connectés à des machines, d'autres seront des humains mutés génétiquement. Et on peut penser que certaines sociétés refuseront certains sauts technologiques pour des raisons éthiques ou religieuses ou légales. Mais si l'humanité n'est plus une, on aura un problème. Quel sera le socle sur lequel adosser les droits de l'homme ? Comment créer une juridiction commune ? Ce sera difficile.
Si c'est que dans 5000 ans, c'est pas grave.
Effectivement.
Ce qui nous relie, c'est le nouveau livre d'Alexandre Lacroix qui vient de paraître aux éditions Alary. On se retrouve juste après les infos.
Europe 1 Social Club, Frédéric Taddeï.
L'invité du Social Club ce soir s'appelle Alexandre Lacroix. Son nouveau livre « Ce qui nous relie » vient de paraître aux éditions Alary. Frédéric Socher, c'est le réalisateur de « Je veux être actrice » qui sort mercredi en salle. Anastasia Colosimo qui publie « Les bûchers de la liberté » chez Stock. Julien Domady pour son premier roman « Vie et œuvre » de Constantin Hérode chez Grasset. Et l'ethnologue Astrid Fontaine, elle publie « Le peuple des tunnels ». C'est sur la vie des employés du métro parisien au début du XXe siècle et c'est paru aux éditions du Nouveau Monde. Anastasia Colosimo, alors qu'est-ce qu'on ne fait plus depuis le début des années 2000 ?
Alors je crois qu'il y a un tas de choses qu'on ne fait plus, mais le plus triste c'est qu'il y a certains voyages qu'on ne fait plus. On ne va plus en Syrie au début du XXIe siècle. Il y a un tas de pays où on a peur d'aller. On a peur d'aller en Israël, on a un peu peur d'aller en Égypte. On ne sait pas trop si on peut aller en Arabie Saoudite, même si on nous y invite. La Russie aussi, je pense que ça va devenir compliqué. Ça l'est déjà un peu parfois pour obtenir un visa.
Pourquoi ? Pourquoi c'est compliqué la Russie ?
Parce qu'ils donnent maintenant des visas un peu au compte-gouttes. Ils vérifient si vous n'êtes pas un agent, un dissident, enfin bon, un journaliste.
En Inde, c'est pareil. Hein, pour Inde... obtenir un visa en Inde, c'est la pire bureaucratie. Que... Ils vous demandent le nom de famille, le nom de jeune fille de votre grand-mère.
Oh là là. Enfin voilà, le monde se rétrécit. Donc je pense qu'il y a un tas d'endroits où on ne peut plus aller.
Et pour vous, Astrid Fontaine ?
Moi, de manière beaucoup plus anecdotique, on ne fume plus dans le métro.
Non, ni ailleurs.
ni ailleurs. Et du coup, avec la disparition du tabac dans le métro, le grillon du métro aussi a disparu, puisqu'il se nourrissait de nos mégots.
Frédéric Socher, qu'est-ce qu'on ne fait plus pour vous ?
Je ne pensais pas à ça, mais je rebondis sur ce que vous dites, parce qu'il y a une petite anecdote que je voulais vous raconter. J'avais, à 18 ans, fait un court-métrage avec Serge Gainsbourg et Michael Lanzdal qui s'appelle « Fumeur de charme ». Et qui montrait le charme des fumeurs, la séduction, la gestuelle, les volutes de fumée. Et j'ai remontré récemment à France 2, qui a coproduit mon nouveau film, ce court-métrage. J'ai dit, ah, c'est formidable, alors on peut le rediffuser peut-être. Ah non, 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 impossible. Aujourd'hui, en 2015, on ne peut plus montrer des fumeurs et dire que c'est formidable la cigarette. Je tiens à préciser que je n'ai jamais fumé moi-même. Et donc c'est amusant de voir qu'on peut devenir politiquement incorrect 30 ans plus tard,
oui.
Et qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne passent plus, alors qu'il y a vraiment une gestuelle intéressante, il y a vraiment les volutes de fumée qui ont bercé mon adolescence cinéphile avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, par exemple.
Aujourd'hui, c'est le contraire, il n'y a plus que les méchants qui fument dans les films américains, par exemple.
Je me demande si je ne vais pas me mettre à fumer, en fait.
C'est un bon truc, si vous voulez savoir qui est le méchant du film, pour regarder qui fume.
Parce qu'il faut arrêter avec ce politiquement correct, la transgression, ça existe, et c'est pas mal aussi.
Julien Donadi.
Pardon, mais je vais filer la métaphore de tout à l'heure. Donc, je dirais que ce qui est en train de disparaître, c'est la verticalité. Alors, tout à l'heure, je l'entendais au sens de Julien Gracq, c'est-à-dire la longue succession des auteurs qui mène jusqu'aux auteurs d'aujourd'hui. Mais on peut parler de la verticalité pour parler de la disparition, en tout cas de l'effacement de la notion d'autorité, etc. Mais c'est pas forcément de la déploration, puisque le nouveau monde, c'est le monde de l'horizontalité. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Alexandre Lacroix, c'est-à-dire le monde des réseaux, ce que Deleuze appelle les rhizomes. On est dans cette nouvelle société.
Alexandre Lacroix, dans votre livre, il y a ce milliardaire américain Peter Thiel, auquel on faisait allusion tout à l'heure, qui dit que, au fond, depuis 1983, la date du premier téléphone portable, on n'invente plus rien. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'améliorer, mais on n'invente rien.
Oui, alors il apprécie énormément les pensées non conformistes, Peter Thiel, et donc il a investi les premiers investisseurs de PayPal, le premier investisseur de Facebook, et il dirige un des plus gros fonds d'investissement dans les nouvelles technologies, et lui, son idée, c'est que le progrès a vraiment ralenti depuis 30 ans. Donc il joue aussi hein, en nous balançant cette idée-là.
Alors pour vous, qu'est-ce qui est en train de disparaître, Alexandre Lacroix?
Il y a un objet qui servait à caler les fesses des enfants et dont on guettait l'apparition à la fin de l'année dans les cages d'escalier qui a disparu, c'est le bottin, l'annuaire. Et il a disparu.
Je pensais que vous alliez nous dire le Youpala.
Non, et il a disparu. Et en fait, plus largement, avec lui, la totalité des banques de données papier. Donc je reviens à mes trousers. Non, c'est-à-dire, effectivement, les archives papier sont en train de disparaître.
Et vous avez l'air de la regretter.
On n'a pas connaissance d'un matériau qui serait plus stable à travers le temps. On voit bien que les ordinateurs des années 80 possèdent des données sur disquette qu'on est en général plus capable de lire, à moins d'être très bien équipé.
Et même parfois, on se dit que les ordinateurs pourraient s'éteindre.
Et on peut se demander si la mémoire de l'humanité n'est pas actuellement stockée sur du volatile.
Europe 1 Social Club revient dans un instant.
20h, 22h.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Anastasia Colosimo, je rappelle que vous avez 25 ans, vous publiez Les Bûchers de la Liberté chez Stock. Est-ce que ce livre, vous l'auriez écrit s'il n'y avait pas eu le meurtre des dessinateurs et des journalistes de Charlie Hebdo ?
Non, je ne l'aurais jamais écrit.
Et pourtant, vous avez l'air de dire que, au fond, la liberté d'expression rencontrait des problèmes, notamment en France, avant. Cette attaque.
Non, c'est certain. Et même si j'allais un peu plus loin, je dirais que la question du blasphème, elle apparaît pas avec les attentats de janvier 2015, que c'est un problème qui est beaucoup plus ancien, auquel on aurait dû faire beaucoup plus attention, qu'on a aussi notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé en janvier 2015. Mais je pense que je l'aurais écrit plus tard, et puis différemment aussi. Je pense que là, j'ai voulu écrire un essai un peu grand public. J'ai voulu porter au jour mes recherches de manière prématurée aussi pour dire voilà que moi j'avais travaillé sur ces sujets depuis quelques années et que j'avais quelques trucs à dire.
Et en même temps, parmi les trucs que vous avez à dire, il y a beaucoup de choses qui risquent de choquer ou en tout cas qu'on ne s'attend pas à entendre. Anastasia Colosimo, c'est un plaidoyer pour la liberté d'expression, mais vous avez l'air de vous plaindre que juste après cet attentat, justement, où on a tous en France célébré la liberté d'expression, au fond, les premières mesures qu'on a prises, c'est de la restreindre, que ce soit en pénalisant les propos racistes qui ne relevaient pas du pénal jusque-là, hein, ou en instaurant l'apologie du terrorisme, et il y a cette image que vous ranimez dans nos souvenirs, et c'est pas un très bon souvenir, c'est cet enfant de 8 ans menotté. Vous dites menotté, d'ailleurs je l'ai jamais vu menotté, mais il faut
oui,
dire que je regarde pas la télévision.
Sur les images,
ouais. Ah oui, il était menotté, donc c'était le 28 janvier 2015, on l'a emmené au commissariat pour apologie du terrorisme, il avait 8 ans.
Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui s'est passé après le 11 janvier, c'est que voilà, on s'est tous retrouvés autour de la liberté d'expression. Tout le monde était ravi, tout le monde pensait qu'on défendait, nous, la liberté d'expression, l'Occident, la France, Paris. Il y a eu un moment où d'ailleurs tout le monde s'est mis, puisque c'était les États-Unis étaient là, même tous les pays musulmans étaient là. On avait, ça venait de partout, des tweets, des hashtags. Enfin bon, c'était vraiment une pluie. Pro-liberté d'expression.
Y compris de dirigeants de pays qui ne respectent en aucune façon la liberté d'expression.
Bien sûr, bien sûr. Ce sont les premiers précipités pour dire qu'ils nous soutenaient, qu'ils étaient Charlie, qu'ils étaient Paris et qu'ils étaient toutes ces belles choses. Donc déjà, il y a eu le fait que très rapidement, cette solidarité s'est quand même craquelée à l'international, au niveau national aussi, puisque très vite on a eu des voix dissidentes, donc ceux qui n'étaient pas Charlie, alors en dehors de ceux qui étaient Kouachi, bon.
Oui, il y a eu des gens qui ont tweeté je suis Kouachi.
Bon, il y a des gens qui ont tweeté je suis Kouachi.
Ils sont tombés sous le coup
alors,
de l'apologie du terrorisme.
Ils sont tombés sous le coup de l'apologie du terrorisme, mais aussi tous ceux qui n'étaient pas Kouachi. Mais ce qui est vrai et ce que j'essaie de montrer, c'est que on a célébré la liberté d'expression, et puis le lendemain, voilà, l'apologie du terrorisme, cette loi qui avait été votée un an auparavant par Cazeneuve, a vu mettre en fait des enfants, des adolescents qui avaient tweeté je suis Kouachi en prison, et puis Hollande et Valls, en présentant leur grand plan contre le racisme et l'antisémitisme, ont promis à ce moment-là de pénaliser les propos racistes et antisémites, ce qui paraît un peu insensé.
Pourquoi ?
Ça paraît insensé parce que bon, alors c'est des développements juridiques mais qui sont pas inintéressants et que je vais essayer de rendre assez clair. La loi de 1881, qui est la loi qui s'applique encore aujourd'hui, la loi sur la liberté d'expression, c'est une loi qui a une procédure particulière. On considère que comme c'est des histoires d'affaires de liberté d'expression, il faut appliquer une procédure qui est une procédure longue, qui permet aux défenseurs de préparer sa défense. Il n'y a jamais de juge unique. On compare toujours avec trois juges parce qu'on sent bien que voilà, c'est des choses délicates. Ce qui se passe, c'est que quand on dit qu'on va pénaliser les propos racistes et les propos antisémites, on décide donc de prendre cette loi-là, de la retirer de la loi de 81 et de la mettre directement dans le code pénal. Et donc d'appliquer la procédure pénale, qui est une procédure qui est beaucoup plus hardcore. Donc c'est
et qui mène à la prison ferme.
Exactement, c'est comparution immédiate, c'est juge unique, et donc en fait c'est des procédures qui vont très très vite. Pour prendre un exemple, par exemple, donc le grand procès contre Charlie Hebdo en 2007,
si, au moment des caricatures,
de Mahomet, si à ce moment-là c'était la procédure pénale qui s'appliquait, le procès se serait passé en 2 minutes à la 17e chambre, alors que c'est un procès qui a duré très longtemps et qui a été nécessaire, puisqu'on a vraiment rediscuté de ce que ça voulait dire la liberté d'expression pour nous.
On reparlera, hein, puisque c'est très important dans votre livre, Anastasia Colosimo, de ces lois qui permettent de poursuivre en France les propos racistes, la loi Pleven en particulier. Mais d'abord, vous faites remarquer qu'il n'y a pas que les musulmans qui dénoncent des blasphèmes. En 2012, vous faites la liste, il y a eu des catholiques traditionnalistes, il y a eu l'évêque de Bamberg en Allemagne, il y a eu la Grèce où un blogueur a été arrêté pour blasphème après une plainte du parti néo-nazi Obdoré. Il y a eu les États-Unis, il y a eu la Russie, la Turquie, le Pakistan. Et puis vous dites que en fait, c'est une longue histoire en Europe, le blasphème, et le blasphème est toujours puni dans la plupart des pays européens. Il n'y a quasiment que la France qui soit une exception.
Oui, oui, c'est étonnant. Alors justement, la France, on y reviendra, mais c'est étonnant parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est complètement moyenâgeux ce terme de blasphème. On a l'impression que ça, voilà, on parle du retour de l'islam, du fondamentalisme musulman, du fait que voilà, tout d'un coup, il y a cette question du blasphème. Nous, on a, bon, je dirais, on a le cul propre quand on dit non, mais nous, on n'y est pour rien, Chez nous, on peut tout dire, il n'y a pas de problème. En fait, on se rend compte que pas du tout. Déjà, effectivement, la majorité des législations européennes interdisent le blasphème, ce qui paraît insensé et ce qui, en fait, ne l'est pas du tout. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, maintenant, ces législations n'interdisent pas le blasphème en soi, et même parfois le blasphème est absent de la législation, mais le blasphème, c'est devenu l'offense aux croyants. Et donc on va dire, mais non, on l'interdit pas du tout au nom d'un principe religieux, qui est l'interdiction du blasphème, mais au nom d'un principe séculier, c'est-à-dire, il faut protéger les croyants. Bon, mais le résultat est le même, on punit des blasphèmes, c'est le cas aussi en France.
Et alors, la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle dit dans ces cas-là ?
La Cour européenne des droits de l'homme, dans ces cas-là, elle dit quelque chose qui me paraît très étrange, elle dit... si c'est un blasphème qui est constructif, il faut le garder, donc c'est bon, il est cacher, il est autorisé. Si c'est un blasphème gratuit, il faut l'interdire. Mais enfin, un blasphème, c'est souvent gratuit. Donc bon, on comprend pas très bien où elle veut en venir, cette Cour européenne des droits de l'homme.
Alors vous vous demandez d'ailleurs dans ce livre, Anastasia Colosimo, ce que c'est qu'un blasphème. Et au fond, on a l'impression que ça relève ou de l'injure ou de la diffamation. Vous citez d'ailleurs Antoine Furtière qui dit que c'est blesser l'honneur des dieux et des croyants.
Oui, oui, ce que j'essaie de montrer, en fait, c'est que quand on se penche sur le mot, on se rend compte déjà que c'est un mot qui veut tout et rien dire, mais qui veut juste dire mal parler, en fait. Donc c'est mal parler à Dieu, c'est mal parler à ses parents, enfin c'est mal parler de manière générale. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose qui dérange l'ordre, qui dérange le cosmos. Mais en plus, on se rend compte aussi que dès le départ, c'est un concept théologico-politique, c'est-à-dire à la fois religieux et à la fois politique. Et que donc insulter le Dieu, c'est comme insulter le prince et inversement.
Et donc, dans un pays comme les États-Unis, par exemple, le blasphème, ce serait à l'égard du drapeau. Il a été pendant très longtemps interdit d'offenser le drapeau.
Voilà, exactement. La religion civile américaine, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une sécularisation parfaite. On change le contenu. Donc maintenant, ce n'est pas Dieu, mais c'est le drapeau.
Mais c'est toujours politique, au fond, pour vous, un blasphème.
C'est toujours politique, et ça l'a toujours été, en fait. C'est pour ça que toute cette discussion de savoir est-ce que le blasphème est une question religieuse ou pas, pour moi, est une fausse question, parce que ça a toujours été une question politique.
Europe 1 Social Club. Frédéric Taddeï.
Alors venons-en au cas de la France, Anastasia Colosimo, vous en parlez longuement dans Les Bûchers de la Liberté, votre livre qui vient de paraître chez Stock. La France, c'était une sorte d'exception hein, sur la liberté d'expression et sur le blasphème, puisque nous, dès la Révolution française, on a dit maintenant, on a le droit de faire ce que l'on veut, on peut critiquer la religion, on peut tout se permettre. Pour vous, elle restreint de plus en plus la liberté d'expression, la France, avec des lois de plus en plus contraignantes. Au fond, elle ne sacralise pas les croyances, dites-vous, mais elle sacralise les identités.
Ah oui, elle sacralise deux choses. Elle sacralise les identités, mais de manière un peu différente. C'est-à-dire qu'elle sacralise les identités, mais elle sacralise aussi l'histoire. J'espère qu'on en viendra là à un moment. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un mouvement, en fait. La loi de 1881 sur la presse, qui, je le rappelle, s'applique encore aujourd'hui, c'était une loi formidable. Mais c'est aussi les grandes lois de la Troisième République. Donc discutées pendant des années au Parlement. Enfin bon, c'est grandes lois. Pas comme aujourd'hui, quand les lois sont rédigées sur, vous savez, un bord de table et passé dans la nuit.
Et à l'époque, d'ailleurs, tout le monde finissait par s'entendre sur une loi commune. C'était
exactement.
La Troisième République, c'était pas la Cinquième République.
Oui, oui, exactement. Donc, ce qui fait qu'on a des lois qui sont extrêmement mesurées, extrêmement réfléchies. Cette loi, elle abolit le délit d'opinion. Ce qui se passe ensuite, pour moi, c'est le péché originel. C'est 1972, la loi Pleven, qui arrive dans un contexte général, en fait, de mise en cause du racisme, qui accompagne les guerres d'indépendance, qui accompagne les processus de décolonisation, qui en France aussi vient à un moment où on redécouvre le passé vichiste de la France, donc il y a une forme de culpabilité aussi qui naît.
Et puis où il y a de plus en plus d'immigrés en France.
Et évidemment,
aussi,
il y a de plus en plus d'immigrés puisque ils remplacent nos travailleurs. Donc il y a un contexte général, un contexte international aussi.
La loi Pleven, je le rappelle, ça interdit les propos racistes.
Oui, alors justement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ça interdit la provocation à la haine, à la discrimination, à la violence et la diffamation en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une race, une religion ou une nation. Alors bon, il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire. Déjà, provocation à la haine, est-ce qu'on a le droit de, haïr quand même, j'espère. Et surtout, mettre la race et la religion et l'ethnie sur le même plan, je suis pas sûre que ça soit vraiment bien comprendre ce que c'est le fait religieux. Et surtout pour moi, l'événement tragique, c'est que c'est une loi qui ouvre l'action aux associations. Et donc les associations vont pouvoir porter plainte au nom des communautés en cas de racisme ou d'antisémitisme.
Au fond, ce que vous dites, c'est que les religions vont se servir de cette loi pour à la fois porter plainte au nom de tous les croyants.
Alors c'est drôle parce que dire les religions, vous voyez, c'est déjà tomber dans le piège communautariste. En fait, c'est les associations qui vont s'en servir. C'est-à-dire que on est le pays, on milite contre les class action dès que, enfin voilà, c'est un vrai problème. Les actions de groupe, c'est un vrai problème.
C'est cher aux Américains.
Exactement. Donc pour nous, c'est très compliqué, mais là, ce qu'on crée, c'est de la class action, j'ai envie de dire, sauvage. C'est-à-dire que, pour reprendre cet exemple-là, celui de 2007, du grand procès contre Charlie Hebdo, quand ils ont publié les caricatures de Mahomet, quand la mosquée de Paris porte plainte contre Charlie Hebdo, elle porte plainte au nom de tous les musulmans de France. Mais je veux dire, est-ce qu'on allait interroger tous les musulmans de France, un par un, pour leur demander ce qu'ils en pensaient? Donc, vous voyez, ils se retrouvent eux-mêmes, en fait, complètement embrigadés dans un procès qui peut-être les regarde pas du tout, puisqu'il y en a plein qui, au-delà même du fait de défendre Charlie Hebdo, ont rien à faire, ont autre chose à faire que de se poser la question de savoir si c'est haram ou pas, les caricatures de Charlie Hebdo. Une caricature de Mahomet. Donc, cette communautarisation, elle est sauvage. Donc, les religions vont s'en servir, enfin, par les associations surtout.
Alors, il y a également en France les lois mémorielles. La première, c'était la loi Guesso, qui interdisait le négationnisme. Elle date du début des années 90. Depuis, il y en a eu d'autres. Et là aussi, vous dites qu'elle favorise le communautarisme. Ce communautarisme que, par ailleurs, on ne cesse de dénoncer en France.
Oui, alors je pense qu'il y a eu un double mouvement, c'est-à-dire que la loi Pleven, à la fois, elle a entraîné une communautarisation sauvage et en même temps une inflation. À partir du moment où on a passé la loi Pleven, on s'est dit c'est bon, on peut y aller. La loi Guesso, évidemment qu'elle pose un vrai problème. Elle pose un vrai problème en soi, puisqu'il faut se poser la question de savoir ce que c'est protéger une vérité historique. Donc,
D'ailleurs, les historiens se sont depuis manifestés à propos de ces lois.
Oui, en 2005, il y a eu la pétition lancée par Pierre Nora, Liberté pour l'Histoire. Et il faut noter d'ailleurs que la première phrase de cette pétition, c'est « L'histoire n'est pas une religion ». Donc c'était justement pour souligner qu'on ne va pas protéger une liberté historique comme on pouvait protéger, pendant l'Ancien Régime, la liberté religieuse.
Mais alors justement, aujourd'hui, vous faites la différence avec les États-Unis, hein, où on le sait, la liberté d'expression est garantie par la Constitution, et au fond, les Américains disent, ce n'est pas la tâche de l'État de censurer les attaques réelles ou imaginaires contre une doctrine religieuse. Ils ne veulent pas s'en mêler, à la différence de nous, qui nous en mêlons. Je parle de là de l'État français, et avec l'assentiment des citoyens français, bien entendu, où on se mêle de toute attaque contre toute communauté, au fond.
Oui, je pense que c'est délirant et il y a ici quand même une ironie extraordinaire, c'est que on n'arrête pas de défendre le modèle français, de parler de l'exception française, de dire que l'exception française, c'est qu'il n'y a pas de corps intermédiaires entre l'État et le citoyen, que l'État s'adresse toujours aux citoyens et jamais aux communautés. Donc on est par excellence le modèle anticommunautariste et les États-Unis, qui est par excellence le modèle communautariste, enfin multiculturel, on en parlait tout à l'heure, est un pays qui, des 52, l'arrêt date de 52, dit « Oh là 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 là, là, nous on rentre pas là-dedans parce que si on met un pied là-dedans, tout va s'effondrer et on peut pas se laisser aller aux pires orthodoxies ».
Et en même temps, on sait que les fameuses caricatures, les fameuses couvertures de Charlie Hebdo, après l'attentat, les Américains ont refusé de les montrer à la télévision,
par
exemple.
Ça, c'est le puritanisme fou américain. Mais ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'il y a un puritanisme fou, c'est vrai.
Mais c'était aussi pour ne pas offenser les croyants, c'est ce qu'ils ont toujours
dit. Bien sûr, mais c'est leur conception aussi. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une religion civile qui n'existe pas en France. La religion aux États-Unis, enfin quand on parle de laïcité américaine, d'ailleurs le mot n'existe pas en anglais, mais bon, si on parlait de laïcité américaine, c'est l'espace laïque, c'est un espace où toutes les religions sont représentées, ce qui fait qu'il y a une sorte de religion civile. L'espace laïque français, c'est un espace où aucune religion n'est représentée. Donc c'est des rapports au sacré et au divin qui sont quand même très très différents.
Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, Anastasia Colosimo, aujourd'hui, parce que vous dites au fond c'est trop tard. Vous parlez d'un piège, le piège c'est refermé.
Imaginez-vous le député qui va aller au Parlement en disant on va abolir la loi Guesso
se
faire pendre à l'entrée.
Ou la loi sur les injures racistes,
bien
par
sûr,
exemple.
Évidemment. Donc il y a un piège.
Alors, le faire aujourd'hui, ce serait inacceptable.
Ça serait parfaitement inacceptable, à moins de dire on revient à la loi 1881. On revient à l'idée de la loi 1881 et on ne protège que des individus. Et j'en parle à la fin de mon livre et je dis il y a des procès qui sont légitimes. Le procès de la garde des Sceaux, Taubira, quand on agite des bananes devant elle, c'est normal qu'elle puisse se défendre devant un tribunal, qu'elle puisse restaurer son honneur. Et là, on est quasiment envoyé dans le droit romain. C'est la diffamation qui est problématique, en fait. C'est qu'on vous attaque, vous. Ce que j'essaye de dire, et moi ce que je propose, même si je pense que c'est franchement très idéaliste, c'est de protéger les personnes et jamais les groupes, parce que je pense que c'est la guerre de tous contre tous, de protéger les groupes.
Mais ce que vous proposez aussi, au fond, j'ai cru comprendre, c'est que les gens s'endurcissent un peu et arrêtent de porter plainte pour rien.
Alors ça, c'est une grande proposition. J'espère que pour 2017, quelqu'un va la reprendre. Je pense que de manière générale, et pas seulement sur les insultes racistes, mais surtout, c'est-à-dire qu'il faut, il faut que les citoyens aient la peau un peu plus dure, sinon on ne va jamais s'en sortir.
Alexandre Lacroix, une réaction ?
Oui, ça soulève plein de questions et notamment, je crois qu'on peut pas effectivement légiférer d'après la susceptibilité des uns et des autres. En fait, c'est ça le problème.
J'ai l'impression que c'est ça en France.
J'ai l'impression que c'est ça qui est soulevé. On peut même sortir du discours communautaire, c'est-à-dire que après tout, certains ont décidé d'être véganes. Alors si on fait de l'ironie sur les véganes, est-ce qu'on porte atteinte à une communauté qui n'est pas soudée, qui n'a pas d'instance représentative ? C'est-à-dire, en fait. Le problème, c'est que la source du droit ne peut pas être la susceptibilité des individus ni des groupes. Alors, du coup, il faut remonter à d'autres principes. Mais alors, ce qui est vrai et ce qui est embêtant, c'est que moi, je ne suis pas juriste, mais je suis toujours partagé entre la réflexion sur les principes qui inspirent une loi et la réflexion sur ses effets. Par exemple, les effets de la loi Guesso ou les effets de la loi Pleven me plaisent plutôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injure raciale ou antisémite dans l'espace public.
Mais alors, ça me va. Mais le principe. Vous avez fait un livre sur Internet, je suis vraiment mais choquée du fait que vous puissiez dire qu'il n'y a plus d'insultes.
Non,
au contraire, moi, mon argument, c'est plutôt de dire que.
Ce que vous voulez dire, c'est que sur Internet, bah, elles sont partout.
À l'heure d'Internet, interdire les propos racistes, interdire les propos antisémites, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire que ça veut dire c'est une entreprise.
On est de nouveau dans la disjonction, c'est-à-dire on ne sait pas si on parle des effets ou de ce qui est empirique, c'est-à-dire de ce qu'on observe sur Internet ou sur Twitter. Effectivement, il y a des injures raciales.
C'est ce que vous dites aussi sur l'apologie du terrorisme. Le problème, c'est quand on se retrouve avec un enfant de 8 ans.
Non, mais en fait, ce que je dis, et pour le coup là où je vous suis complètement.
Oui,
je vous écoute.
Non, mais on ne sait pas si on parle de si la loi est simplement là pour enregistrer une situation. Bah la situation, c'est que sur Twitter, effectivement, il y a toutes sortes d'injures racistes. Donc si la loi est juste là pour approuver l'existant, bon, on valide. Mais en fait, ce que je trouve difficile à saisir dans le raisonnement général, c'est ces allers-retours entre les principes et les effets. Et moi-même, je dois dire que je suis très partagé. C'est-à-dire qu'il y a des lois dont je suis content qu'elles existent, mais que je ne serais pas capable de les justifier philosophiquement. C'est quand même un peu embarrassant, mais c'est comme ça.
Dernier mot, Anastasia
Colosimo. Alors, je dirais que, justement, je pense que le principe de la loi Pleven et le principe de la loi Guesso sont bons. C'est-à-dire que l'intention est bonne. Je pense que c'est vraiment les effets qui sont mauvais. Et les effets sont mauvais parce que ça crée de la surenchère communautaire. Et je pense qu'au lieu d'avoir un espace où on essaye de comprendre qu'on peut être offensé, mais qu'on peut aussi offenser en retour, on se retrouve dans un espace où on essaye d'avoir sa petite loi, sa petite jurisprudence, sa petite défense à soi.
Les bûchers de la liberté, le livre est paru chez Stock.
20h, 22h.
Europe 1 Social Club. Mars.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes jusqu'à 22h avec Anastasia Colosimo, avec Alexandre Lacroix, Julien Donadi, Frédéric Socher et Astrid Fontaine. Vous êtes ethnologue, Astrid Fontaine, et vous publiez aux éditions du Nouveau Monde « Le peuple des tunnels » sur l'univers caché du métro de la Belle Époque. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas encore la RATP, hein, l'époque qui vous intéresse. La RATP n'a été créée qu'en 1949. Le métro au départ, le métro parisien, qui ouvre en 1900, ce sont des compagnies privées. Il y en a une plus particulièrement qui vous intéresse. Elle a vécu de 1900 à 1930, c'est la compagnie Nord-Sud. On en voit parfois les traces sur les faïences des lignes 12, Porte de la Chapelle Méridici, ou 13, Porte de Versailles qui va jusqu'à Porte de Clichy et Porte de Saint-Ouen. On voit des N et des S enlacés. C'est la compagnie Nord-Sud qui existait à l'époque. Pourquoi est-ce que c'est celle-ci qui vous a intéressé plus particulièrement ?
Alors, j'ai pas choisi, hein. C'est un travail de commande aussi à la base, hein, mais elle était particulièrement intéressante, cette compagnie, parce qu'on n'en parle jamais. Elle est assez inconnue.
Elle est complètement oubliée.
Elle est complètement oubliée. Elle a disparu dans le souterrain, quoi. Donc,
mais comme on a oublié très souvent les compagnies de chemin de fer aussi privées, on se souvient plus. Aujourd'hui, on a l'impression que ça a toujours été la SNCF, mais non. Il y en avait plein.
Oui, sauf que celle-ci, elle a quand même apporté des choses vraiment novatrices au moment de la création du réseau métropolitain de Paris. Et puis, elle a quand même une histoire vraiment particulière. Elle a laissé des marques aussi esthétiques, comme vous le disiez, dans le métro. Donc
oui,
elle est
capable de reconnaître une station de Nord-Sud. La Nord-Sud. Vous,
oui.
Vous pouvez nous donner
courbes,
un truc pour que les Parisiens puissent s'en rendre compte.
Par exemple, certaines faïences où sont indiquées les directions au-dessus sur la clé de voûte, en fait, par exemple.
Et même dans les fers forgés qui sont à l'extérieur des stations.
Dans les fers forgés,
vous les reconnaissez aussi, les
Nord-Sud.
Il y a
un style Nord-Sud.
Il faut dire que la compagnie Nord-Sud vous a d'autant plus passionné que vous avez mis la main sur un trésor, 242 boîtes contenant tous les dossiers.
Combien
personnels. 242,
non, pas du tout. 3600.
Ah bon, bah oui. Pourquoi j'ai trouvé 242?
Il y a
242 boîtes dans lesquelles il y a 3600 dossiers.
Oui, ça c'est possible.
Et voilà, vous voyez que j'ai raison. Je lis bien. Donc les dossiers, c'est quoi? C'est tous les dossiers du personnel avec photos et lettres surtout. C'est incroyable parce qu'ils surveillaient à mort leurs employés.
Ah ben,
et donc il y a des lettres quasiment où les employés racontent leur vie.
Mais c'est pas quasiment, c'est complètement. Ils racontent. En fait, il y a un dialogue qui été instauré entre l'employeur et ses employés, qui est mêlé à la fois de paternalisme, d'intrusion dans la vie intime des ouvriers, des employés, et ils doivent en fait sans arrêt justifier tout ce qu'ils font sur un formulaire qui s'appelle le modèle 61, qui est en fait l'ancêtre du mail, hein, puisque c'est comme ça qu'on communiquait, et donc ils justifient à chaque fois un retard
de 5 minutes.
Il raconte tout.
Donc, alors il y a toutes leurs photos aussi qui jalonnent ce livre. Astrid Fontaine, on y découvre que tous les hommes avaient, à l'époque avaient la moustache, beaucoup, et que les femmes avaient toutes les cheveux relevés en chignon, comme Anastasia Colosimo, qui aurait pu immédiatement se faire recruter.
Il y a un retour du look 1910. Oui.
Alors il faut se souvenir aussi pourquoi est-ce qu'on construit le métro, hein, parce qu'on en parle depuis 1856 à Paris. À Londres, il a ouvert en 1863, Paris seulement en 1900. Bah, c'est d'abord pour faire face aux encombrements, il y en avait déjà à l'époque, et puis pour que les travailleurs arrivent à l'heure à leur poste de travail, pas seulement ceux de la ligne nord-sud, hein, de tous les travailleurs qui travaillent dans Paris et qui vivent dans les faubourgs.
Oui, tout à fait.
Donc, on est dans le Paris du début du XXe siècle, un Paris envahi par les taudis où règnent des maladies terribles, dont la tuberculose. Et c'est d'abord ça, d'ailleurs, le récit de ces employés du métro, c'est le récit de leur maladie, au fond. C'est le début de la médecine du travail aussi.
Début de la médecine du travail, donc c'est les premiers dossiers médicaux, ils sont très fournis. En fait, la médecine du travail est intégrée à la compagnie du Nord-Sud, ce qui existe déjà dans d'autres compagnies, notamment les compagnies minières, l'industrie textile, mais c'est quand même novateur, en fait. Et ça, c'est la mairie de Paris en fait qui octroie une concession à ces compagnies privées, qui impose que ces compagnies privées créent un système de retraite et un système médical en fait. Et donc le médecin intégré à la compagnie, il a deux fonctions, à la fois effectivement offrir ce service qui est un luxe inestimable à l'époque, hein, puisqu'on peut pas on n'a pas les moyens de se soigner, et en même temps c'est un moyen de contrôler aussi la population, puisqu'il y a des visites à domicile, on va vérifier qu'un tel est bien malade et pas en train de reprendre son pavillon.
Sachant qu'en plus il y a des îlots de pauvreté terribles dans Paris, hein.
Voilà.
Vous dites qu'en 1920, 187 000 personnes habitaient des îlots insalubres dans Paris.
Voilà, les conditions de vie sont vraiment assez terrifiantes. Les gens vivent entassés, sans eau courante, sans commodité en fait. Et donc la tuberculose se répand, est un véritable fléau. Je crois qu'il y a une personne sur sept en fait. Un Parisien sur sept qui meurt de la tuberculose à cette époque-là.
Alors, travailler à l'époque dans le métro, c'est les cadences infernales, c'est 10 heures de travail d'affilée, les bas salaires, une organisation quasi militaire, dites-vous. La ponctualité est extrêmement importante. Et vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, ça reste important.
C'est toujours le cas.
Une minute de retard, ça doit être motivé, quoi.
Oui, mais parce que bon, c'est le transport qui veut ça. Hein. C'est un dérèglement, une minute de retard, c'est un dérèglement énorme sur un réseau comme celui-ci. Donc,
Et une compagnie comme Nord-Sud, au fond, elle exploite ses travailleurs, elle les surveille, elle les contrôle, dites-vous. Elle s'immisce dans leur vie privée, mais en même temps, elle les protège, elle les soigne, elle leur porte secours, elle les indemnise.
C'est complètement ambivalent comme rapport, quoi. C'est sûr que...
C'est le capitalisme d'autrefois.
Oui, c'est le paternalisme. Et donc, effectivement, elle les aide, elle leur porte secours, elle est attentive aussi à leur situation personnelle. Elle va s'occuper de la veuve d'un agent décédé, elle va envoyer des colis, surtout pendant la guerre, en fait,
La
Première Guerre mondiale, cette relation est vraiment très visible, puisque les employés écrivent à leur employeur, pas seulement, enfin, pour leur dire je suis en vie, quoi, je suis encore de ce monde, j'espère retrouver mon poste en rentrant, et la compagnie leur répond, leur envoie des colis, et à la fin de la guerre, diligente des enquêtes pour retrouver en fait ces employés devenus soldats, et une grande partie a disparu pendant la guerre.
Il y a la figure du patron de cette compagnie, oui. Nord-Sud, c'est Berlier, c'est un type assez généreux, on a l'impression quand on lit
Bon, là c'est la partie que j'ai beaucoup fictionnée, hein, puisque sur Jean-Baptiste Berlier, il n'y a pas grand chose, mais c'est un personnage quand même assez mystérieux, assez étonnant, qui se dit ingénieur et présenté comme tel, donc dans les divers écrits qu'on a pu retrouver, les soirs il a fait l'école des mines de Saint-Étienne, etc. Et en réalité, j'ai enquêté, il est passé nulle part, quoi, ce monsieur. Donc, est-ce qu'il est autodidacte, autoproclamé ingénieur? En tout cas, c'est quelqu'un, c'est un visionnaire, en fait, de l'époque.
Oui, enfin, il va quand même creuser des tunnels qui tiennent encore.
Tout à fait. Et il réalise des prouesses absolument incroyables, quoi. Donc,
c'est-à-dire que ça passe sous des gares.
Et sous la Seine.
Sous la Seine. Et si c'était mal fait, ça serait écroulé. On continue de parler de ces travailleurs du métro dans un instant. Astrid Fontaine.
20h, 22h. Europe
Europe 1 Social Club. 20h, 22h.
Europe 1 Social Club.
Frédéric Taddeï.
Astrid Fontaine, quand on lit Le Peuple des Tunnels, l'univers caché du métro de la Belle Époque, votre livre qui vient de paraître aux éditions Nouveau Monde, on s'aperçoit que les incidents entre les voyageurs et les employés étaient légion à l'époque. Alors, je ne sais pas s'il y en a toujours autant aujourd'hui, mais c'était déjà la guerre, j'allais dire.
Alors, aujourd'hui, c'est encore le cas. Hein. C'est difficile d'être un agent du métro. Hein. Les agents se font cracher dessus, insulter. C'est quand même une relation très violente avec la masse indifférenciée que nous formons. Quoi,
mais alors, aujourd'hui, on a l'impression que c'est nouveau, qu'avant, les incivilités n'existaient pas.
Nouveau. Je vous lis une petite citation pour vous donner un peu la teneur quoi, de ces correspondances. C'est donc un récit de conflit et donc le matricule 2593 explique « Je fus traité de tête à gifle et que s'il n'était pas grand que des fausses couches comme moi, il les brisait. À 21h30, prenant prétexte de venir chercher sa casquette, il revint accompagné d'une dame qui doit être Madame Parfu. Cette dame me traita de lèche-cul et de crève-la-faim, que j'empêchais de travailler les mutilés, que j'étais un fainéant. Garigny, lui, me traita d'enculé et qu'il me crèverait et que s'il ne pouvait pas m'avoir dans la nuit, il m'aurait dans la journée. » Et c'est truffé de...
Mais c'est aussi les mœurs de l'époque.
C'est les mœurs très violentes de l'époque.
C'est-à-dire qu'on s'insulte, on se menace.
On se bat.
On se bat énormément. L'alcoolisme, évidemment, qui est très, très important.
L'ivrognerie, des consommations d'alcool qu'on est absolument incapable d'imaginer aujourd'hui.
Chez les femmes, d'ailleurs, dites-vous.
Chez les femmes également, qui sont aussi sujettes à...
Mais ça, c'est pas propre aux travailleurs du métro.
Ah non, mais là, c'est 4800... employés qui forment un microcosme, donc il y a beaucoup plus d'hommes, c'est un milieu très masculin, donc on peut pas dire que c'est représentatif complètement de la société française, mais malgré tout, c'est un microcosme qui est un reflet de ce qui se passe.
Alors il y a un chapitre dans votre livre intitulé Les filouteries du souterrain, oui. Il y a du trafic de tickets.
Du trafic de tickets, du grattage de tickets, un comptable qui part avec la caisse pour aller jouer, tenter sa chance au casino. Enfin, il y a quantité en fait d'anecdotes comme ça.
Et il y avait des braquages dans le métro aussi.
Il y avait des braquages dans le métro et ça a donné lieu à une escalade aussi de pour ce qui concerne la sécurité en fait, puisqu'au départ il y a des petites loges qui sont pas fermées à clé et donc on assiste en 30 ans en fait à on commence à fermer la clé, on met une porte un peu plus blindée, etc. Et puis les malfrats ou les braqueurs viennent avec des armes de plus en plus sophistiquées aussi. Quoi.
Donc, alors est-ce que comme aujourd'hui, on essayait de passer sans ticket, puisqu'aujourd'hui ça a l'air d'être le méfait numéro un dans le métro.
Le méfait numéro un dans le métro ?
C'est-à-dire de passer sans ticket, de juste sauter la barrière.
C'est plus difficile aujourd'hui quand même. Enfin, à l'époque, il y avait...
Il y a des protections aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait aussi...
Des objets anti-humains qui sont assez efficaces, quoi. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de personnel, en fait. Donc,
Beaucoup
plus qu'aujourd'hui.
Il y a également un chapitre sur l'amour dans le métro. Les agents, dites-vous, s'intéressaient beaucoup aux voyageuses.
Aux voyageuses, puis aussi la compagnie employait des ménages. En pensant que ce serait un gage de stabilité et ça tournait souvent au vinaigre, voilà. Donc, avec des scènes de ménage assez spectaculaires qui se déroulaient devant les voyageurs et qui finissaient au commissariat. Enfin bon, des histoires comme ça.
Puis il y a des adultères aussi.
Il y a des adultères, donc effectivement des dénonciations, des relations comme ça.
Par exemple, il y a une lettre concernant une nettoyeuse qui a la réputation de détourner les hommes mariés.
Oui.
Elle est la maîtresse officielle d'un chef de gare à l'époque. Il y avait des chefs de gare, mais il y a la femme d'un autre agent qui se plaint qu'elle a couché avec son mari.
Tout à fait. Ça,
et d'ailleurs, ils sont assez bien. La compagnie, ils disent c'est la vie privée, on n'y peut rien. Quoi.
Sur ce plan-là, ils sont moins intrusifs que sur les autres.
C'est la France.
Il y a aussi de la prostitution. Hein,
dans les couloirs du métro ?
Pas spécialement dans les couloirs, mais en tout cas, les femmes qui sont employées sont payées deux fois moins que les hommes. Et voilà, la prostitution, pas comme activité principale, mais comme activité pour boucler le mois, en fait, c'était extrêmement courant et on en trouve les traces.
Il faut dire aussi que le Paris de la Belle Époque, c'est la capitale mondiale du tourisme sexuel.
Oui, et puis bon, ça a continué aussi après.
Astrid Fontaine, est-ce que vous voyez une grande opposition entre ce peuple des tunnels, c'est le titre de votre livre, ce peuple souterrain et le peuple de la surface?
Oui, alors ça c'est vraiment frappant, une espèce de rupture en fait qui se lie à la fois dans les photos d'archives. Donc on a vraiment le monde de la surface avec les montres à gousset, les chapeaux melons et les costumes, et le monde souterrain avec des gens en haillons et leurs pelles et dont on a perdu jusqu'au dossier.
Ça, ce sont ceux qui creusaient le métro.
C'est ceux qui creusaient le métro, oui.
Mais parmi les voyageurs, en revanche, il y a de tout.
Dans les voyageurs, il y a de tout. Bon, et les voyageurs sont moins présents.
Et parmi ces employés, au fait, ils viennent de partout.
Alors, bah, on est quand même en période de, c'est l'exode rural, hein, donc ils viennent de plein de régions de France. Ils arrivent à Paris qu'ils connaissent pas. Ils sont mal logés, ils savent pas forcément où loger. Et voilà, donc effectivement, c'est très disparate.
Frédéric Sochard, je me tourne vers vous parce qu'au fond, ce peuple des tunnels, le seul film qui en a parlé, c'est Subway, le film de Luc Besson. Aussi, oui. Évidemment, on y pense quand on lit, sauf que dans Subway, il ne parle pas des gens qui travaillent pour le métro, mais d'une peuplade qui vivrait comme ça dans les interstices du métro. Mais au fond, ça n'a pas tellement donné l'occasion de film ce métro qui pourtant est fascinant.
C'est fascinant, et en vous écoutant justement, mais c'est peut-être une déformation professionnelle. J'imagine plein d'histoires de films possibles, mais c'est d'ailleurs un point commun avec tous les invités ce soir, puisque il faudrait faire un film qui parle justement du phénomène religieux et de la transgression qui peut exister. Il faudrait être courageux à faire ce genre de film. Et toutes les histoires que vous racontez, j'ai pas lu votre livre, mais ça donne envie de le lire en tout cas.
Sur le métro.
J'imagine qu'il y a plein de récits romanesques, et puis bien sûr l'adaptation de votre livre.
Parler Alexandre Lacroix, là.
Ou bien, bien sûr, toutes les questions que vous évoquiez, qui me paraissaient du domaine de la science-fiction, quand vous parlez de ce qui peut exister dans 5000 ans. Donc, il y a...
Et vie et œuvre de Constantin Hérode, non?
L'adaptation. mais je ferai d'ailleurs, je résumerai peut-être simplement par une phrase, c'est que ce qui est formidable, c'est l'appel à l'imaginaire. Parce qu'on peut même être ethnologue et avoir un lien avec l'imaginaire. Je pense vraiment que l'imaginaire mène notre monde et qu'on l'oublie parfois trop souvent.
Anastasia Colosimo.
Oui, moi j'avais une question parce que je ne sais pas si vous avez suivi, il y a la série Downton Abbey qui est sortie, qui a eu vraiment beaucoup, beaucoup de succès.
Qui se passe entre les maîtres des aristocrates anglais au début du XXe siècle et leurs serviteurs qui vivent eux au sous-sol.
Exactement, donc c'est ce que. Voilà, il y a aussi une histoire de sous-sol, il y a une histoire de deux mondes, le monde des. Ça. Oui. Bien sûr. Mais alors du coup, Downton Abbey, c'était intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ont commencé à dire « Ah mais en fait, le paternalisme, c'était pas si mal. » Et puis en fait, au sous-sol, bah, c'est ce que vous dites. Enfin voilà, ils s'occupaient aussi beaucoup de choses. Et ma question, c'était vraiment l'impression que ça vous a donné tout ça sur le paternalisme.
Sachant, pardon, juste, c'est que les domestiques, ils vivaient en plus sous le même toit, ce qui n'est pas le cas des employés de la ligne Nord-Sud.
C'est vraiment très ambivalent parce qu'en fait l'intrusion elle est énorme, l'irrespect est énorme et en même temps les employés on sent bien que l'employeur c'est leur famille quoi. On sent bien aussi qu'il y a un lien vraiment presque passionnel entre ces entités et qu'il y a aussi même pendant la guerre les grands noms du Nord-Sud vont sur le front aussi, sont mobilisés aussi, donc ils partagent aussi un quotidien, donc c'est pas aussi clair et ça reste très ambivalent comme impression. Mais ça reste un monde extrêmement violent et sur l'imaginaire du souterrain, enfin il y a vraiment cette sensation là que il y a une malédiction autour du sous-sol quoi. C'est
comme chez les mineurs.
Voilà, comme tout. Dans tous ces environnements.
Dernier mot, Alexandre Lacroix.
Ah, si c'est le dernier mot, je vais faire très vite. Non, il y a une histoire du métro, moi, qui m'a fasciné, c'est le percement du premier tunnel sous la Seine. Mm-hmm. Et alors, je ne sais pas si vous avez travaillé sur ce projet, mais il devait d'abord être en face de l'Institut, c'est-à-dire l'Académie française. Et puis les académiciens ont dit, mais non, c'est horrible, sous nos pieds, un métro, c'est pas possible. Donc, ils l'ont creusé au pire endroit imaginable. Il a fallu traverser l'île de la Cité. Bah, peut-être que vous pouvez dire quelques mots, parce que ça c'est frappant.
4. C'est pas la ligne, c'est pas le réseau du Nord-Sud, mais effectivement, la traversée sous la Seine, c'est une prouesse technique d'ingénierie absolument incroyable à cette époque-là. Il faut quand même, donc sur la ligne 4, ils ont congelé en fait la selle. C'est ce qui donne ces images assez spectaculaires. Berlier, lui, a opté pour une autre solution. Il a adapté en fait un modèle de bouclier, de tunnelier en fait. Il s'est servi pour la première fois de l'air comprimé. Et donc les gens descendaient dans des espèces de sas d'ascenseurs comme ça, par des paliers de décompression. Et travailler dans une atmosphère, ben voilà, c'est cette image.
Il y a plein d'images d'ailleurs dans le livre qui sont très impressionnantes. Hein.
Atmosphère d'air comprimé et à la moindre fuite, c'était la mort de tout le monde et l'engloutissement de tout le monde par la Seine. Donc c'est des atmosphères.
C'est d'autant plus impressionnant qu'à la différence des mineurs, les mineurs, eux, ne travaillent pas avec des immeubles de 12 étages
au-dessus
de la tête. Là, il y a vraiment. Il y a tous les Parisiens qui sont au-dessus. Quoi. Mm-hmm. Le peuple des tunnels, l'univers caché du métro de la Belle Époque, le livre d'Astrid Fontaine est paru aux éditions Nouveau Monde. Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Vie et œuvre de Constantin Hérode, le premier roman de Julien Donadille est paru chez Grasset. Les Bûchers de la Liberté Liberté, le livre d'Anastasia Colosimo, c'est chez Stock. Ce qui nous relie, d'Alexandre Lacroix, c'est paru aux éditions Alary. Et Je veux être actrice, le film de Frédéric Socher avec sa fille Anastasia Socher et Patrick Chenet, Michael Lonsdal, Denis Podalydès, Micheline Prel, Jacques Weber ou Philippe Torreton. Ça sort ce mercredi en salle, pas seulement à Paris, également en province. Nous, on se retrouve demain. Dans un instant, c'est Europe Nuit avec Emmanuel Faux.